Vous écoutez France Culture.
Alain Winston, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Andrea De Lungo, qui publie « La fenêtre, sémiologie et histoire de la représentation littéraire » aux éditions du Seuil. La fenêtre est l'espace réel, imaginaire ou fantasmatique qui rend accessible à nos sens cet infini insaisissable qu'est le monde. Votre champ de recherche, Andrea De Lungo, c'est la littérature française. Vous l'enseignez à l'Université de Lille. Vous connaissez sur le bout des doigts l'œuvre de Balzac. Et vous êtes intéressé à la question des frontières du texte littéraire, à la théorie du signe et à la relation entre littérature et savoir dans le domaine du roman moderne. Vous avez publié il y a une dizaine d'années dans cette même collection des éditions du Seuil, dirigée entre autres par Gérard Genette, qui était notre invité ici il y a quelque temps, l'incipit romanesque. Et vous avez également collaboré et co-dirigé même un collectif intitulé Le roman du cygne, fiction et herméneutique au XIXe siècle, publié par les presses universitaires de Vincennes en 2007. On vous doit aussi La littérature en bas bleu, ce sont deux volumes que vous avez co-dirigés avec Brigitte Louichon dans les classiques Garnier, pour la première fois en 2010 et réédité en 2013. Ça, si je me souviens bien, c'est sur la littérature populaire.
Non, c'est sur les femmes romancières au 19e siècle.
Il y en avait.
Il y en avait beaucoup, il y en avait énormément, sauf que la littérature officielle les a oubliées, surtout au moment où l'histoire littéraire à la fin du 19e siècle, avec Lanson, s'est définie en tant que discipline. Et les premières histoires littéraires, le premier manuel d'histoire littéraire, ont presque régulièrement éliminé les femmes romancières, qui étaient très nombreuses et qui étaient appelées des bas bleus. C'était une manière pour désigner une femme qui avait des prétentions à la littérature, une femme pédante, on aurait dit. Une femme savante, pédante. Et donc, on a voulu, avec cette collègue Brigitte Louichon, dans le domaine universitaire, essayer de valoriser ce patrimoine littéraire oublié, de le faire connaître, de l'étudier, bien évidemment, dans une perspective historique, précisément pour voir. Pour montrer que c'était un véritable phénomène historique, celui de l'accès des femmes à l'écriture au moment de la démocratisation aussi de l'instruction, en tout cas de la lecture. Et il y a d'ailleurs un troisième colloque qu'on a organisé, et donc il y aura aussi un troisième volume, je l'annonce déjà, mais je pense pour 2015.
Alors qu'est-ce qui vous a conduit, vous qui avez grandi en Ligurie, à vous intéresser au patrimoine littéraire français, au point de résider en France aujourd'hui et d'écrire en français, car le livre dont nous allons parler ce soir, contrairement au premier, l'incipit romanesque, La fenêtre, donc, est écrit directement en français.
Sans doute une partie de hasard, c'est-à-dire j'ai fait des études de littérature française, de civilisation française à l'université, Et une fois eu ma maîtrise, j'ai décidé de venir à Paris. C'était un rêve, un mirage pour moi, petit provincial italien, de venir dans la métropole. Et j'ai poursuivi donc mes études en France. J'ai commencé à entamer une carrière universitaire en France. Mais concernant la question très pertinente de la langue, parce que l'Incipit romanesque, en revanche, avait été d'abord écrit en italien, puis je l'ai auto-traduit en français avec beaucoup de peine, je dois avouer. Concernant la question de la langue, j'aime énormément pratiquer le français comme une langue qui reste étrangère, même si elle est désormais incorporée d'une certaine manière, parce que je ressens tous les jours l'étrangeté de cette langue, et de cette manière, j'essaie de la respecter, d'écrire d'une manière qui soit à la fois lisible, parce que je n'aime pas trop le jargon disciplinaire, d'écrire d'une manière lisible, mais en même temps, je m'efforce, au moins c'est ma tentative d'écrire dans une langue élégante.
Alors évidemment, ce livre, vous aimeriez qu'il soit traduit peut-être en italien.
Dans toutes les langues du monde. J'ai peu d'espoir.
Ouais. Et pourquoi ? À cause du fait que vous vous intéressez uniquement à la littérature française ?
Oui, sans doute, le corpus principal de cet ouvrage sur la fenêtre est un corpus de littérature française, même si je parle assez souvent d'auteurs étrangers, mais italiens, bien sûr, Pétrarque, Leopardi, mais aussi Goethe. Voilà, j'essaie d'ouvrir le spectre de la littérature au moins européenne. Il y a aussi un chapitre très long sur Edgar Allan Poe, par exemple, donc européenne et aussi américaine. Mais en même temps, j'ai dû choisir devant un corpus immense, parce que les fenêtres en littérature sont partout. C'est aussi ce qui a motivé le choix de ce sujet. J'ai dû choisir et j'ai essayé de centrer donc mon analyse sur le 19e siècle, qui est l'époque des fenêtres, de mon point de vue, d'un point de vue aussi d'une étude de l'histoire de l'architecture, avec beaucoup d'exemples français du grand roman réaliste, mais aussi des poètes. Je ne désespère pas que ce bouquin puisse être traduit dans beaucoup de langues. Il est clair que les études littéraires en ce moment ont du mal à percer auprès d'un public important. Donc je suis déjà très 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 satisfait d'avoir été édité au Seuil, comme pour l'Incipit romanesque d'ailleurs.
Alors ouvrons cette fenêtre. C'est un ouvrage panoramique qui est gros, 500 pages, et qui analyse l'image de la fenêtre en littérature sur une très vaste période du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Et par ses multiples fonctions, la fenêtre peut être conçue, c'est ce que vous avez fait, comme un objet théorique qui est défini par la notion d'hypersigne.
Oui, j'ai essayé, parce que j'ai un goût pour la théorie littéraire, c'est-à-dire pour la quête d'universaux, ou en tout cas d'éléments plus généraux que le simple commentaire ou la simple analyse. J'ai essayé, disais-je, de théoriser un objet qui, à plusieurs égards, est fuyant, parce que les fenêtres sont partout, parce que les fenêtres ont des fonctions multiples. Donc ma question était de savoir à quoi servent les fenêtres en littérature. En réalité, je n'ai pas donné une réponse, car il y en a plusieurs. Et j'ai essayé, précisément, pour théoriser cet objet, de définir les fonctions qui lui sont propres dans le cadre de la littérature. Alors, il y a une fonction de cadrage visuel qui est propre à la littérature comme à la peinture, et qui d'ailleurs dérive d'un paradigme pictural, celui que Léon-Baptiste Alberti a défini à la Renaissance dans son traité de la peinture. Là où la fenêtre fonctionne comme une métaphore de la création, il y a une fonction, je l'ai appelée, d'investissement libidinal, c'est-à-dire le rôle que joue la fenêtre dans cette concrétisation du désir, lorsqu'on peut traverser la fenêtre, mais aussi dans une condensation, dans une cristallisation du désir, lorsque la fenêtre permet le voyeurisme. C'est l'un des hauts lieux du voyeurisme. Puis une fonction que j'appelais de connaissance indiciaire, la fenêtre qui fonctionne donc comme signe indice, qui permet précisément l'accès à la connaissance. C'est un paradigme du roman réaliste, mais aussi du roman policier, lorsque la fenêtre découpe un morceau de réel qui est donné à voir à un observateur, à partir duquel, par analogie, on peut imaginer le tout, avec toutes les subversions, avec tous les obstacles d'ailleurs qui peuvent s'interposer au regard. Et puis une dernière fonction qui est celle de séparation symbolique, c'est-à-dire au moment où dans l'histoire littéraire, car ce livre est aussi une histoire de la représentation littéraire, au moment où dans l'histoire littéraire, disais-je, les fenêtres se ferment. Mmh. Donc la fenêtre cesse d'être une ouverture dans les deux sens, de l'intérieur à l'extérieur et vice-versa, mais devient plutôt un véritable obstacle qui est là aussi symbolique d'une condition humaine qui devient celle de la captivité, de l'isolement, de la marginalité.
Alors tout ça, c'est très pointu, évidemment, mais pourtant, à l'origine, à la base, dans l'histoire de l'architecture, une fenêtre, ce n'est rien d'autre qu'une ouverture qui est pratiquée dans un mur.
Absolument. Elle est, la fenêtre a la fonction de faire entrer l'air dans la pièce, donc une fonction d'hygiène, a aussi la fonction de faire entrer, faire pénétrer la lumière, bien évidemment. Mais au départ, les fenêtres n'avaient pas la fonction de passage de la vue,
du regard,
ouais. Absolument. La preuve, c'est que même du temps d'Alberti, les fenêtres des palais florentins, par exemple, comme Palazzo Strozzi, sont percées à 4 mètres du sol, ou dans le cas d'autres fenêtres plus petites, à 2 mètres, en tout cas à une hauteur où la vue est impossible. Mmh. Donc ce n'est que progressivement que la fenêtre est devenue le lieu de l'observation.
C'est à partir de la Renaissance.
À partir de la Renaissance, tout de suite après. Il est clair que pour écrire ce livre, j'ai consulté beaucoup de manuels d'architecture sans que l'architecture soit mon domaine de spécialité. Mais le point principal dans cette histoire de la représentation littéraire via les fenêtres, pour moi, était précisément de prendre en compte le fait que la fenêtre n'est pas la même selon les époques. Mmh. Et que du coup, sa représentation ne peut pas être la même, et que la littérature permet à la fois de rendre compte d'un réel, mais aussi, d'une certaine manière, de anticiper en tout cas les transformations qui seront celles de la réalité, comme le fait d'ailleurs dans le domaine de la peinture Alberti, précisément au XVe siècle, lorsqu'il imagine cette fenêtre qui serait celle de la création, celle où la peinture trouvera sa place, donc celle du tableau, lorsqu'il imagine cette comparaison, plutôt cette analogie entre la fenêtre et le tableau.
On disait au début que vous faites commencer votre étude au Moyen-Âge, mais en fait, on le voit, les étapes sont tardives. La Renaissance, puis le XVIIIe siècle, car c'est à la fin du XVIIIe siècle que se développe l'essor de ce qu'on a appelé la civilisation des fenêtres.
Oui, c'est une définition que j'ai donnée, la civilisation des fenêtres, pour à la fois définir ce foisonnement extraordinaire de la fenêtre en littérature, notamment dans le roman réaliste, donc au début du 19e siècle, mais aussi pour, toujours dans l'histoire plutôt de l'architecture et surtout des techniques de fabrication du verre, pour rappeler que c'est avec l'invention du verre coulé, ou du coulage des verres, donc des glaces, que l'on a pu, à l'époque, avoir des fenêtres d'une grande dimension et surtout d'une transparence parfaite. Alors que le verre, avant, avait des imperfections, des bulles d'air, donc une transparence qui était parfois colorée par des métaux, donc une transparence imparfaite, et forcément, les vitres étaient de plus petite dimension. J'ai même pu émettre cette hypothèse, qui est juste une hypothèse, concernant ici la poésie lyrique de Pétrarque, là aussi d'un double sens entre la réalité et la représentation littéraire, car Pétrarque invente cette métaphore de la fenêtre comme œil du poète qui regarde et qui contemple l'extérieur, mais aussi comme œil percé par les flèches d'amour. Mmh. Et si la fenêtre est un œil chez Pétrarque, c'est peut-être aussi parce que les fenêtres à l'époque étaient vitrées avec des petites vitres de forme circulaire, comme un œil précisément.
Donc l'espace de la fenêtre, c'est une métaphore
C'est toujours une métaphore.
Une métaphore de la création. Vous parliez d'Alberti tout à l'heure.
Oui, c'est une métaphore de la création qui va de soi dans le domaine de la peinture, parce que, en raison précisément de cette analogie entre la fenêtre et le tableau, qui a été exploitée d'ailleurs dans la modernité par Magritte ou Duchamp, qui ont précisément réfléchi sur cet aspect métapictural des fenêtres. En littérature, je dois avouer que la question n'avait pas été abordée dans ce sens. C'est aussi pour cela que j'ai écrit ce livre, parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage entièrement consacré à la fenêtre, alors qu'il me semble que la fenêtre est un objet omniprésent en littérature, à toutes les époques d'ailleurs, dans tous les genres, et qu'il acquiert toujours des valeurs symboliques, de valeurs métaphoriques ou des valeurs sémiologiques, c'est-à-dire, comme vous le rappeliez au début, elle fonctionne comme un signe, ce que j'ai même appelé un hypersigne, c'est-à-dire un noyau de la représentation. Par là, je veux dire qu'une fenêtre articule autour d'elle, dispose autour d'elle tous les signes de la représentation littéraire. Elle est à la fois le lieu de passage d'un regard, de disposition d'un espace descriptif, mais aussi de vision vers l'intérieur. C'est le lieu de l'observation, mais aussi du repli sur la conscience. C'est le lieu de passage, mais d'isolement en même temps. C'est un lieu qui sépare l'intérieur de l'extérieur, avec une déclinaison sexuelle ou genrée, plus exactement, entre l'intérieur domestique féminin et l'extérieur social masculin. Voilà, j'ai analysé toutes ces multiples fonctions qui font de la fenêtre un signe central, selon mon point de vue. C'est là aussi, c'est par cette manière, on va dire, que j'ai essayé de le théoriser. Mmh.
Littérature, eh bien, vous avez retrouvé ou mentionné une lettre d'Émile Zola de 1864 qui développe longuement une théorie des écrans que vous rapprochez du traité d'Alberti. Et vous trouvez qu'il y a des points convergents assez surprenants.
Tout à fait. Et c'est grâce à cette lettre très célèbre d'ailleurs de Zola qui développe cette théorie des écrans. C'est grâce à cette lettre que j'ai pu montrer pour la première fois que la fenêtre fonctionne comme métaphore de la création aussi dans le domaine littéraire. Zola distingue en effet dans cette lettre trois écrans et en même temps il trace une histoire de la littérature, donc l'écran classique, l'écran romantique, pardon, et l'écran réaliste. Or, cet écran réaliste, bien évidemment, est une vitre transparente. C'est ce qui permet de mieux voir le réel et en même temps, ce qui m'a frappé, c'est que Zola imagine à la surface de cette vitre une poussière grise, donc quelque chose qui entrave la vision et qui implique que la fenêtre n'est jamais un espace parfaitement mimétique, c'est-à-dire que même une vitre transparente a toujours un pouvoir de déformation, et c'est par là que cette image de la vitre-écran devient véritablement métaphore, parce que c'est un espace de transformation entre un sujet qui regarde l'extérieur, l'artiste, et la réalité extérieure qui est là, mais sur laquelle on n'aura jamais une emprise directe. C'est ce que dit Alberti aussi. Très souvent, j'ai pu lire une interprétation assez plate de ce que dit Alberti en disant, pour Alberti, le tableau est une fenêtre ouverte sur la réalité.
C'est d'ailleurs un titre de bonheur.
Absolument, oui. Il n'en est pas ainsi, surtout dans le texte qu'Alberti a écrit en toscan, parce que le traité a d'abord été écrit en latin pour le public docte. Le texte écrit en toscan, qui est à l'intention des peintres, qui ne lisaient pas le latin à l'époque, est beaucoup plus précis. Et on voit que cette fenêtre qu'Alberti dessine est une fenêtre mentale. C'est la fenêtre, précisément, où la création commence à naître. C'est une fenêtre fantasmatique qui cristallise tous les désirs et qui, enfin, donne à voir ce qui sera peint dans cet espace, dans un futur. Donc, c'est une fenêtre mentale. Mmh.
Toujours au chapitre des relations entre la fenêtre et la création littéraire, Andrea Del Lungo, vous évoquez longuement Charles Baudelaire.
Oui, parce que la fenêtre est une est omniprésente dans la poésie baudelairienne, mais moins finalement dans Les Fleurs du Mal que dans Les Petits Poèmes en Prose, donc dans ce recueil intitulé Petits Poèmes en Prose ou Le Spleen de Paris, où il y a aussi un poème en prose qui est entièrement consacré à la fenêtre et qui a aux fenêtres, parce que le titre est au pluriel, et qui commence par une phrase extraordinaire. Celui qui regarde du dehors une fenêtre ouverte ne pourra jamais voir autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Donc, par la comparaison entre la fenêtre ouverte et la fenêtre fermée, je pense qu'on arrive là à ce point de basculement de l'histoire littéraire où les fenêtres se ferment. Mais si elles se ferment, elles sont néanmoins beaucoup plus fécondes que la fenêtre ouverte dans toute sa transparence, dans toute sa visibilité. Donc ce que Baudelaire énonce par cette première phrase de son poème en prose n'est pas du tout un paradoxe, même si la phrase a l'air d'en être un. En réalité, c'est une vérité d'imaginer que la fenêtre fermée est plus mystérieuse, donc plus énigmatique, donc plus littéraire, à plusieurs égards, que la fenêtre ouverte.
Autre grand poète qui s'invite dans votre livre, vous les citiez tout à l'heure, Pétrarque et Léo Pardi.
Oui. Pour Pétrarque, on est là au moment de naissance du lyrisme, et la fenêtre est un objet fondamental, car le poète qui posté à sa fenêtre, il regarde autant l'extérieur que lui-même. C'est-à-dire que cette duplicité de la fenêtre, qui est un seuil entre l'intérieur et l'extérieur, ne concerne pas uniquement l'espace, mais concerne aussi le corps du poète lui-même. Ce que j'ai voulu souligner à la fois chez Pétrarque, mais dans toute la tradition du lyrisme jusqu'à Léo Pardi et même Baudelaire justement, c'est que chaque occurrence de la fenêtre est accompagnée d'un repli sur l'intériorité. Donc que cet objet est véritablement une interface privilégiée entre des espaces que la fenêtre met en relation et sépare en même temps. Donc c'était ce que je voulais montrer à propos de la tradition du lyrisme, qui prend une place importante, même si le roman est aussi très développé dans cet ouvrage, à partir de La Princesse de Clèves, donc de l'ancêtre du roman d'analyse.
Dans une partie joliment intitulée La surface du désir, vous montrez que l'amour passe par les fenêtres.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter par la fenêtre.
On évite. même si dans cette tradition théâtrale et même narrative, jusqu'à une certaine époque, effectivement, on traverse les fenêtres. On traverse les fenêtres pour pénétrer dans la chambre de la femme aimée et concrétiser le désir. Et puis les fenêtres, là aussi, se ferment inexorablement. Il y a aussi le cas de Boccace qui est encore plus amusant, parce que c'est la jeune fille qui demande la permission aux parents de dormir sur le balcon pour profiter du frais, et donc c'est l'amant qui pendant la nuit monte au balcon pour passer une nuit d'amour avec elle. Donc la fenêtre, avec ses espaces extérieurs comme le balcon par exemple, chez Léo Pardi aussi, est véritablement un espace qui condense qui condense à la fois le désir, le voyeurisme, et c'est pour cela que j'ai écrit une partie, La surface du désir, entièrement consacrée à cette thématique.
Par exemple, les souffrances du jeune Werther, hein, où la fenêtre devient un espace de cristallisation du désir.
Oui, surtout parce que il y a une mémoire dans ce roman épistolaire d'un moment sublime que Werther vit précisément à la fenêtre, qui est un moment d'intense harmonie entre, là encore une fois, l'intérieur et l'extérieur, entre les sentiments de Werther et un espace sublime qui s'ouvre devant lui avec la femme aimée. Et j'ai rapproché ce moment avec la mort de Werther qui précisément essaie d'aller vers la fenêtre, qui roule par terre en allant vers la fenêtre comme si là était le point de fuite et en même temps le point de vie.
La fenêtre peut être aussi un obstacle par sa double fonction d'ouverture et de passage. Elle attire le regard et elle peut exciter le voyeurisme, voire davantage. Et d'ailleurs, vous notez que chez certains auteurs comme Balzac ou Proust, les fenêtres sont aussi présentes que les rideaux.
Absolument. Alors maintenant, nous avons des méthodes pour chercher dans les textes littéraires des récurrences lexicales, bien évidemment, des méthodes de plus en plus développées. Alors, chez Balzac, il y a 1300 fenêtres, si l'on considère fenêtres, mais aussi croisées, qui étaient à l'époque un synonyme. Mais il y en a en réalité beaucoup plus, parce que très souvent, la fenêtre est définie dans le texte par ses vitres, mais surtout par ses rideaux, par ses persiennes, par ses volets, par tout ce qui fait obstacle. Il y a là aussi une raison historique qui est celle de vouloir protéger la vie privée, ce qui précisément est typique des manières d'habiter du 19e siècle, notamment à partir du début du 19e siècle, ce que Walter Benjamin a montré dans son livre sur Paris. Mais en même temps, il y a aussi une raison narrative, bien évidemment, littéraire. La fenêtre devient le lieu de l'énigme, devient le lieu du mystère. Ce n'est pas un hasard si, d'ailleurs, à la naissance du roman policier, est une fenêtre, celle du double assassinat de la rue Morgue, que Edgar Allan Poe utilise précisément comme lieu indice pour lever le mystère, mais qui est à la base le lieu même du mystère.
De temps en temps, d'ailleurs, vous faites un petit détour par le cinéma en citant, par exemple, Fenêtre sur cour.
Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas voulu insister parce que je fais déjà un détour par la peinture, un détour par la photographie, parce que là aussi, la première photo du monde a été prise par une fenêtre, par Niepce. Fenêtre sur cour est effectivement signe l'apogée, sans doute, de cette civilisation de fenêtres où tout se voit par la fenêtre et dans cet univers clos qui est celui d'une cour, d'un immeuble américain, tout se voit effectivement par la fenêtre. Et ce n'est qu'à la fin qu'on voit le mur où se trouve la fenêtre par laquelle on a observé le réel tout au long du film. Donc là aussi, il y a un jeu sur les fenêtres. D'ailleurs, j'ai constaté, à ma grande surprise, que la fenêtre a aussi des variations en littérature dans le dispositif spatial qu'elle articule. Par exemple, très souvent, on a une vision d'une fenêtre à l'autre ou également une vision par des verres colorés. C'est un objet à part entière, me semble-t-il, le verre coloré dans l'histoire de la littérature.
Au XXe siècle, dans l'histoire de la littérature, un auteur vous attendait inévitablement, c'est Alain Robbe-Grillet.
Oui. J'ai parlé de Robbe-Grillet en essayant, par cette analyse, de résumer beaucoup d'auteurs dont je n'ai pas pu parler pour des raisons d'espace. Par exemple, aussi Marie Duras, qui utilise également cet objet d'une manière récurrente. Il y a un très beau livre de Florence de Challonge qui parle déjà des fenêtres chez Duras. Pour Robbe-Grillet, en revanche, il me semble que cet objet textuel n'avait pas vraiment attiré l'attention des exégètes, des analystes. Mais on arrive, avec la fenêtre de Robbe-Grillet, effectivement, à l'apogée du voyeurisme, car c'est un lieu d'espionnage, la fenêtre. C'est un lieu d'espionnage dans la jalousie, par exemple, qui, dès le titre, indique cet obstacle visuel de la jalousie, des rideaux, au passage du regard. Donc c'était, pour moi, parler de Robbe-Grillet était l'aboutissement, en quelque sorte, de toute une histoire, parce que ce livre, je le dis encore une fois, est une histoire, et il y a une... une intention historique, l'aboutissement de toute une histoire qui concerne à la fois le voyeurisme, le désir, mais aussi la disposition des espaces dans la représentation littéraire.
Et aujourd'hui, qu'en est-il des fenêtres ?
Dans la conclusion, j'émets l'hypothèse, mais sans aller plus loin, bien sûr, c'est une hypothèse conclusive, que la fenêtre des temps modernes n'est rien d'autre qu'Internet. C'est-à-dire que, au moment même où dans l'architecture de nos villes, la fenêtre tend à disparaître, tend à devenir verrière, voire à ne plus être une fenêtre dans les tours vitrées, entièrement vitrées, voilà qu'un nouvel objet technologique, l'ordinateur, nous permet d'ouvrir une fenêtre virtuelle sur le monde. Et il me semble au fond que cette fenêtre virtuelle qu'est Internet partage un peu les mêmes fonctions que j'ai pu définir pour la fenêtre littéraire. Donc c'est un lieu de création, c'est une métaphore de la création, c'est un lieu d'investissement du désir, c'est un lieu de connaissance, certainement, et c'est peut-être aussi un lieu d'isolement. C'est un lieu d'isolement qui nous renvoie précisément à notre condition de solitaire devant un écran. Mais j'ai voulu terminer par la fenêtre d'Internet, car c'en est une. Elle s'appelle d'ailleurs fenêtre et le système opératif s'appelle Windows. Donc il y a quelque chose qui, d'Alberti jusqu'au temps moderne, jusqu'à Bill Gates, traverse l'histoire. Et pour moi, c'est précisément grâce à l'image de la fenêtre qu'on peut le lire. Donc mon but était aussi de tracer une histoire du regard, donc qui va au-delà du domaine littéraire, une histoire du regard que la fenêtre permet précisément.
La fenêtre, sémiologie et histoire de la représentation littéraire, l'essai d'Andrea Del Lungo est publié au Seuil dans la collection Poétique. Du jour au lendemain, Olivier Dupré, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.